Chapitre 11. Pendant toute notre vie commune, mon père adoptif et moi n'avons eu qu'une seule grosse dispute. Le jour où il a découvert les lettres de ma sœur. « Ne sois pas idiote » a-t-il rugi en empoignant la pile de missives à peine déchiffrables. « Tu n'as rien à y gagner et tout à y perdre. »« C'est ma sœur. Elle t'a agressé à coups de ciseaux. Et même comme ça, tu as été plus chanceuse que cette dernière victime. Dis-moi que tu ne lui as pas répondu. » Je n'ai rien dit. Il a pincé les lèvres et son visage sévère affichait une nette réprobation. Puis, d'un seul coup, il a soupiré. Il a reposé les feuilles sur mon bureau et il est allé s'asseoir avec lassitude sur mon lit à froufrou rose. Il avait 65 ans, un généticien tiré à quatre épingles, grisonnant, qui devait se dire qu'il n'avait plus l'âge. « Souviens-toi qu'il y a deux sortes de familles », m'a-t-il dit sans me regarder. J'ai hoché la tête. Nous étions en terrain connu de la plupart des enfants adoptés. Il y a deux sortes de familles, celles que la vie vous donne et celles qu'on se crée. Les familles biologiques sont données par la vie, les familles adoptives sont créées. C'est à ce point-là du raisonnement que la plupart des parents adoptifs se lancent dans un boniment enthousiaste pour vanter les avantages de la famille qu'on se crée. Les autres enfants aimeraient bien pouvoir choisir leurs parents, leurs frères et sœurs, etc. Quelle chance tu as! Mon père adoptif avait passé mes jeunes années à me lire quantité de livres sur le sujet. L'enfant de mon cœur, un, deux, trois familles. Sauf que, quand il disait qu'il n'aurait pas pu m'aimer davantage si j'avais été de son sang, il était d'autant plus crédible qu'il n'avait pas d'enfant biologique, ni d'épouse. Avant de me rencontrer, le docteur Adolphus Glenn était un célibataire, un solitaire même, tout ce qu'il y a de plus heureux. Et s'il n'était pas le père le plus démonstratif du monde, je n'ai pour autant jamais douté de son amour. Enfant, je me rendais déjà compte de son intégrité hors du commun, de sa dignité tranquille. Il m'aimait, sincèrement. Et aux yeux d'un homme comme lui, cela représentait tout. « Tu n'es pas obligée de la choisir », m'a-t-il expliqué ce jour-là. « Shana est peut-être la famille que t'a donnée la vie, mais c'est aussi celle qui t'a été reprise. » Et pour d'excellentes raisons. Si cette lettre avait été écrite par ton père, tu la lirais quand même? Ce n'est pas la même chose? Pourquoi? Ce sont tous les deux des assassins. Elle n'était qu'une petite fille qui est devenue une psychopathe. Elle a combien de victimes à son actif? 3, 4, 5? Tu lui as posé la question? Peut-être que ses crimes, sa personnalité, peut-être que ce n'est pas sa faute. Il m'a considérée sans flancher. Peut-être qu'elle aurait été différente si elle n'avait pas subi l'insatiable appétit de violence de ton père, tu veux dire? Si elle n'avait pas été témoin tous les soirs de sa perversité, tandis que toi, tu étais enfermée dans le placard? Les 5 premières années de la vie d'un enfant sont cruciales, ai-je murmuré. Je venais de terminer ma licence. Je n'ai passé qu'un an dans cette maison. Elle, 4. Donc l'essentiel de ses principales étapes de développement, l'inné contre l'acquis. Tu as eu la chance d'avoir une famille aimante, contrairement à ta sœur, qui est restée dans le système de l'aide sociale. Résultat, tu vas entrer dans une des plus prestigieuses écoles de médecine de Boston, tandis qu'elle a été et restera toujours à l'école du crime. C'est cruel. Mais tu te mens à toi-même, Adeline. Ça n'a rien à voir avec l'opposition entre inné et acquis. Tu culpabilises de t'en être sortie, voilà tout. C'est ma sœur. Mais elle a de lourds antécédents de violence envers autrui, toi notamment. Donne-moi une seule bonne raison de te choisir, Shana, comme famille. Une seule bonne raison et je m'inclinerai. L'amour rebelle, j'ai regardé ailleurs. Parce que j'ai marmonné. Mon père a levé les bras au ciel. Dieu nous protège des demoiselles, je sais tout. « Réponds-moi, tu lui as envoyé de l'argent ?» Encore un silence et un nouveau soupir paternel. « Elle t'en a demandé, n'est-ce pas ?»« Et allons donc. C'est une manipulatrice de génie et tu es une proie facile. Vous vivez toutes les deux dans une grande maison, mais elle, c'est derrière des verrous. » Peut-être aussi que c'est mon aîné et qu'entre sœurs, on doit se serrer les coudes. Noble sentiment, c'est elle qui a écrit ça? Je ne suis pas naïve. Très bien. Ne lui envoie plus d'argent. Qu'on voit combien de temps il se passera avant que ses lettres s'arrêtent. Elle a envie de me connaître. Et toi? Pour la première fois, mon père semblait moins sûr de lui. Je suis curieuse. On connaît tous les deux la triste réputation de mon père. Je me suis mise à chanter. Haridé, le sale tordu, le sale pervers qui voulait seulement se les faire, et que je t'attrape, et que je te cogne, et que je te troue, et que je te pogne. À tout, il leur disait, t'es mon amour, avant de les enterrer à leur tour. J'étais au collège quand j'avais entendu cette ritournelle pour la première fois, mais jamais je n'en avais parlé à mon père adoptif. Parce que connaître la vérité peut être une souffrance, mais en parler à un être cher qui ne peut rien pour vous, également. Mon père s'est voûté, le regard plein de douceur. C'est juste. Et ma sœur aussi, n'est-ce pas? Je suis issue d'une famille d'assassins. Oui, a-t-il reconnu d'un air lugubre. C'est ton patrimoine génétique. Et quoi que nous aimerions en penser, l'hérédité joue un rôle essentiel dans la psychologie. L'amour ne peut pas changer le monde à lui seul. Tu es trop jeune pour être aussi cynique, ma belle. J'ai poursuivi. Je ne pense pas être une meurtrière. Encore heureux. Mais je pense que je devrais savoir ce que j'ignore encore, découvrir ce dont je ne me souviens pas. Parce que j'ai reçu ma famille biologique en héritage et que tu m'as toujours enseigné qu'il n'y avait rien à gagner au déni. Prendre un problème à bras-le-corps, l'analyser, le dominer, ce n'est pas ce que tu recommandes? Je recommande aussi la prudence, il me semble. Souviens-toi que la douleur est multiforme. Et la famille, a-t-il ajouté en montrant les lettres de ma sœur. N'importe quelle famille, mais la tienne en particulier, a le don de faire souffrir. Si tu as lu le rapport sur Haridé, si tu as réellement regardé ces photos, tu dois le savoir aussi bien que moi. On ne fait qu'échanger par écrit, me suis-je défendue. Environ une fois par mois, comme avec une correspondante. Ça va aller. Ça n'en restera pas là. Un jour ou l'autre, ta sœur demandera à te rencontrer. Et tu iras, Adeline. C'est dans des moments comme ça que je regrette vraiment que tu ne puisses pas ressentir la douleur. Tu aurais peut-être un meilleur instinct de conservation. Tout va bien se passer, papa. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Et j'ai tourné le dos à mon père. Le débat était clos. Ma conviction faite, ma décision confortée. Et peut-être que j'aurais tenu bon. Peut-être que je me serais limitée à des lettres. Mais mon père est mort. La famille que nous avions créée s'est dissoute. Je suis restée seule au monde. Et même si je ne sentais pas la douleur, ce n'était pas pour autant que je ne souffrais pas de solitude. 6 mois plus tard, je me rendais pour la première fois au pénitencier pour femmes. Et assise face à Shana, je réalisais que, comme toujours, mon père adoptif avait raison. Ma grande sœur avait bel et bien un don particulier pour faire souffrir. Mais je me plaisais à imaginer, sans doute comme la plupart des petites sœurs, que j'avais moi aussi des dons hors du commun. Comme j'avais décommandé tous mes rendez-vous de la journée lorsque j'avais appris la tentative de suicide de Shana, ce fut une surprise de trouver le commandant Warren devant ma porte en arrivant à mon cabinet. Je sortis de l'ascenseur, ma clé à la main, et me figeai un instant, parcouru par un frisson de frayeur. Sa tenue, pantalon foncé et pull couleur crème, pouvait être celle d'une policière en pleine enquête. Et entre mes antécédents familiaux et l'article à sensation publié dans le journal du matin au sujet des 2 récents meurtres. Mais ensuite, je remarquai sa façon de se tenir, ou plutôt d'être avachie contre le mur lambrissé. Son visage blême et lugubre, un masque de douleur finement ciselé. « Ça va ?» lui demandai-je en m'approchant. Qu'est-ce que je fais là, à votre avis? Le ton était cassant, son bras gauche collé à sa poitrine dans une posture protectrice. J'en déduisis que la nuit avait dû être mauvaise et la matinée pire encore. La meilleure défense étant une attaque bien sentie, Didi Warren avait apparemment décidé d'être aussi agressif que possible. Je m'arrêtai à sa hauteur et dis d'une voix neutre. Est-ce que je me trompe? Je ne crois pas que nous ayons rendez-vous. Je passais dans le coin. Je me suis dit que j'allais tenter ma chance au cas où vous pourriez me recevoir. Je vois. Ça fait combien de temps que vous attendez? Je n'ai pas attendu, je viens d'arriver. J'ai vu qu'il n'y avait pas de lumière, je me suis dit que ce n'était pas mon jour. L'ascenseur a fait ding, et vous voilà. Je hochai de nouveau la tête, enfonçai la clé dans la serrure, la tournai. Après quelques secondes de réflexion, je dis, avec résignation, « Entrez, je vous en prie. » « Merci. Thé, café, eau ?»« Café, si ça ne vous dérange pas. » Vous débarquez à mon cabinet sans prévenir. Il est trop tard pour vous demander si ça me dérange. Didi sourit enfin et me suivit dans le deux pièces. J'allumai les lampes, accrochai mon manteau, rangeai mon sac à main. Où est votre secrétaire? Je lui ai donné sa journée. Vous ne travaillez pas le mercredi, d'habitude? J'ai eu un imprévu. Didi hocha la tête, fit le tour de la pièce et examina les diplômes accrochés au mur pendant que je préparais du café. J'ouvris la porte de ma salle de consultation. Didi s'assit sur la chaise rigide et poussa un petit soupir avant de se ressaisir. Sa main gauche tremblait. Douleur, lassitude, difficile à dire. Mais l'enquêtrice ne me paraissait pas du genre à flancher facilement. Le fait même qu'elle fasse appel à mes services en disait long sur l'intensité de sa souffrance. « Pour des questions d'assurance, lui indiquai-je, je vais devoir considérer cette séance comme un rendez-vous normal. » D'accord. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Je souris, pris place comme d'habitude derrière mon bureau. Ça veut dire que vous avez toute l'heure pour m'expliquer pourquoi vous êtes venu voir à l'improviste une thérapeute que vous accusiez il y a 2 jours de raconter des conneries. Je ne voulais pas vous critiquer personnellement, protesta Didi d'une petite voix. Juste, la méthode, vous voyez, l'idée de l'appeler Melvin. Je souffre comme une damnée. En quoi est-ce qu'un nom y changera quelque chose? Voyons cela. Faisons le point. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre douleur actuelle? 12. Je vois. Et ça dure depuis combien de temps? Depuis ce matin. Je me suis un peu énervée en m'habillant. J'ai tiré très fort alors que j'aurais sans doute dû tirer très doucement. Melvin a les nerfs depuis ce moment-là. D'accord. Dis-je en notant l'information. À quelle heure ce matin? 10 heures. Je consultai ma montre. Il était 14 heures. Donc, ça fait 4 heures que vous avez mal. Quel remède avez-vous tenté? Didi me regarda, l'air de ne pas comprendre. Vous avez pris des antidouleurs, de l'ibuprofène, des antalgiques sur ordonnance, autre chose? Non. Je le notai également. Après notre précédente entrevue, je n'étais guère surprise. « Poche de glace ?»« Je n'étais pas chez moi », répondit-elle entre ses dents. « Et une crème analgésique, Biofreeze, Icy Hot ? Je crois qu'on trouve les deux sous forme de patch ou en tube quand on cavale toute la journée. » Elle rougit, détourna les yeux. « C'est difficile à appliquer. Et puis, ça pue, vous voyez ? Ça ne va pas avec ma tenue. » « Forcément. » Renchéris-je. L'élégance avant tout. Elle rougit de nouveau. Et les remèdes non médicamenteux, vous avez essayé de parler à Melvin? Je l'ai insulté 2 ou 3 fois. Est-ce que ça compte comme conversation? Je ne sais pas, à votre avis. L'enquêtrice eut un petit sourire ironique. Mon mari dirait sans doute qu'avec moi la réponse est oui. Je reposai mon stylo et regardez ma patiente droit dans les yeux. En résumé, vous éprouvez une douleur extrême. Vous avez refusé le froid, les anti-inflammatoires, les antalgiques, les pommades et toute vraie conversation. Admettons. Et ça marche? Didi releva la tête et ses yeux s'animèrent enfin lorsqu'elle répondit avec emportement. Et allons-y, le discours du psy de base. Et ça marche? Évidemment que non, ça ne marche pas. Sinon, je ne serais pas ici avec l'impression que mon bras est en feu, que ma vie est fichue et que je ne pourrai jamais reprendre ma carrière, sans parler de porter mon enfant ou d'enlacer mon mari. C'est la merde, Melvin me fait chier. C'est pour ça que vous êtes venu. Parce que votre vie est merdique et que, soyons franches, vous avez besoin de passer vos nerfs. Est-ce que je fais un bon punching ball, commandant Warren? Pourquoi se livrer à l'introspection quand on peut se défouler sur quelqu'un d'autre? N'essayez pas de rentrer dans ma tête, putain! Avec tout le respect que je vous dois, je suis psychiatre. Rentrer dans la tête de mes patients est ma spécialité. Alors, maintenant, vous préférez continuer à m'engueuler ou vous voulez que votre douleur baisse d'un cran? Didi me dévisagea, le souffle court, nerveuse, en colère, mais aussi en détresse. Une réelle détresse physique. Je me penchai vers elle et ajoutai avec plus de bienveillance. Didi, vous avez subi un des traumatismes les plus douloureux qui soient. Votre tendon a arraché un morceau d'os. Et au lieu de vous autoriser à mettre votre bras au repos pour réparer la fracture, on vous oblige à le mobiliser tous les jours. Puisque, et je suis sûre que les médecins vous l'ont expliqué, une immobilisation pourrait provoquer une ankylose de votre épaule et une invalidité durable. Donc, vous soumettez votre humérus cassé à une rééducation quotidienne, en plus de vous débattre pour enfiler vos chemises, de vous colleter avec les portières de voiture et de faire à longueur de journée des dizaines d'autres petits mouvements involontaires qui provoquent aussitôt une douleur à se rouler par terre en hurlant. Voilà à quoi ressemble maintenant la vie du commandant Warren. Vous souffrez, et ça vous met hors de vous. Pire encore, vous éprouvez un sentiment d'impuissance qui provoque à son tour un sentiment de désespoir. Or, vous n'avez l'habitude d'aucune de ces deux émotions. Didi ne répondit pas et continua à me regarder de marbre. Vous ne faites pas confiance au psy, continuai-je avec énergie. Vous n'êtes même pas certaine de m'apprécier. Et malgré cela, de toutes les mesures que vous auriez pu prendre pour lutter contre votre douleur aujourd'hui, la seule à laquelle vous ayez pu vous résoudre, c'est de vous pointer à mon cabinet. Il faut croire que ça a du sens à vos yeux. Elle me gratifia d'un bref hochement de tête. D'accord. Alors partons de là. Vous avez fait vos exercices aujourd'hui? Pas encore. J'imagine qu'à ce stade de la cicatrisation, vous ne faites encore que de la mobilisation pendulaire. Vous en connaissez un rayon sur les traumatismes et la rééducation. Oh que oui. Maintenant, j'aimerais voir vos exercices. 15 mouvements pendulaires. Allez-y, je vous en prie. Didi blêmit. Son menton se mit à trembler. Puis elle s'en aperçut et immobilisa sa mâchoire. Non, sans façon. Si, je vous en prie. Écoutez, ma douleur est déjà à 12. Obligez-moi à faire ma kiné et on aura tout gagné. Je ne pourrai pas prendre le volant pour rentrer chez moi et il y a une chance sur deux que je vomisse sur votre moquette. Je comprends. Dans votre cas, les exercices sont extrêmement douloureux. Au début, vous souffrez, mais à la fin, vous êtes à l'agonie. Dixit la psy insensible à la douleur. Exact. Même avec le bras cassé, je pourrais faire des mouvements pendulaires. En fait, je pourrais faire des flips arrière. Je ficherais en l'air le reste de mes os, de mes articulations et de mes muscles, mais en attendant, on n'y verrait que du feu. L'enquêtrice resta muette. « La douleur est une chance », expliquai-je posément. « C'est le premier mécanisme de défense de votre organisme. Pour l'instant, vous êtes incapable de le voir. Vous en voulez à votre douleur. Soit vous l'engueulez, soit vous essayez de l'ignorer complètement. En réaction, elle rugit encore plus fort parce qu'elle a besoin d'attirer votre attention. Elle fait ce qu'elle est censée faire pour vous épargner d'autres blessures. Peut-être qu'au lieu de maudire Melvin parce qu'il s'exprime, vous pourriez le remercier des efforts qu'il fait pour vous. Dites-lui que vous comprenez ce qu'il cherche à faire, mais que dans les 10, 15, 20 minutes qui viennent, vous voudriez qu'il comprenne que vous devez mobiliser votre bras et votre épaule. Même si à court terme, ça provoque un surcroît de douleur, vos exercices sont indispensables à la guérison à long terme. Parlez-lui. Ne vous contentez pas de l'insulter. Là, vous voyez, on retombe dans le n'importe quoi. Réfléchissez à la chose suivante. Il y a 10 ans, on a mené une étude sur le seuil de perception de la douleur chez de grands athlètes, c'est-à-dire chez des individus qui accomplissaient en permanence des performances quasi inhumaines au prix de sévères plans d'entraînement. La première hypothèse de cette étude était que ces sportifs devaient posséder un seuil de perception de la douleur plus élevé que le commun des mortels. ce qui aurait expliqué leur capacité à pousser leur corps dans ces retranchements. Mais, à la grande surprise des chercheurs, c'est l'inverse qui s'est révélé exact. En fait, la plupart des athlètes ont témoigné d'un degré de conscience de la douleur sensiblement plus élevé que la moyenne. Et on a observé chez eux une plus grande activité du système nerveux central que dans le groupe témoin. D'après eux, leur conscience aiguë de la douleur contribuait paradoxalement à leur performance. Leur réussite ne tenait pas au fait qu'ils auraient été inconscients de leurs limites ou de leurs blessures, mais au fait qu'ils connaissaient les contraintes et collaboraient avec leur corps pour les dépasser. Pas à proprement parler une victoire de l'esprit sur la matière, mais une connexion du corps et de l'esprit qui leur permet d'enregistrer les sensations, d'ajuster leur comportement et de s'améliorer constamment. Ça vous paraît logique ? Didi, le front plissé. J'imagine. C'est ce que je vous encourage à faire. Ne vous détournez pas de votre douleur. Prenez-en acte, acceptez-la et collaborez avec votre corps pour la dépasser. Lui donner un nom, ce n'est qu'un moyen pour vous aider à l'identifier et à vous concentrer sur elle. Si vous vous sentez idiote quand vous appelez votre douleur Melvin, alors ne le faites pas. Appelez-la douleur ou ne l'appelez pas du tout. Mais prenez conscience de votre seuil de douleur. Observez comment se sent votre blessure. Et ensuite, travaillez en partenariat avec votre corps pour faire ce que vous avez à faire. À savoir, il me semble, 15 mouvements pendulaires. Je montrai l'espace libre devant mon bureau. Je vous en prie, faites comme chez vous. Didi fit de nouveau une moue pincée. Je crus un instant qu'elle allait refuser. Ce qu'elle avait dit précédemment n'avait rien d'exagéré. J'avais déjà vu des patients vomir à la fin d'une séance de rééducation, tant l'effort était violent. Non seulement il fallait obliger un bras cassé à bouger, mais avec l'inflammation des nerfs. Les fractures par arrachement figurent parmi les lésions les plus douloureuses qui soient, à ce qu'on m'a dit.